On a tous fait cette expérience de commander sur Internet trois produits sur la même plateforme. Eh bien, ces trois produits commandés au même moment vont arriver à trois jours différents, ou en tout cas avec trois livraisons différentes.
Le roman dont on vient de parler à la radio, une paire de baskets neuves, voire un vélo d'appartement, chez moi, demain, c'est la promesse des e-commerçants. Promesse encouragée par nos comportements de consommateurs particulièrement impatients en cette période de pandémie et de confinement.
On est en période de couvre-feu et le seul moyen de se procurer à manger facilement, c'est eux. Et c'est plutôt rapide, c'est partout dans Paris, donc ça nous arrange.
En 2020, en France, les ventes sur Internet ont progressé de 8,5% avec un chiffre d'affaires de 112 milliards d'euros. Le e-commerce a représenté 13,4% du commerce de détail, contre 9,8% en 2019. Cette hausse se répartit entre les enseignes des magasins, plus 53%, et les grandes plateformes, les places de marché numérique, plus 27%. Derrière ces chiffres impressionnants, il y a évidemment toute une logistique. Les commerçants rivalisent, faisant de la rapidité de livraison un argument de vente, et les acheteurs cliquent de façon compulsive, sans trop se poser de questions.
Sacrifier sa vie parce que le client est roi comme dans n'importe quelle branche de métier, mais là c'est vraiment l'extrême.
Mais toutes ces camionnettes qui désormais sillonnent les rues et les routes de France sont conduites par des livreurs dont les statuts varient mais qui ont en commun des impératifs de rapidité et de qualité de service, très souvent au prix de leur qualité de vie à eux, comme vous allez le constater à l'écoute de ce reportage de Vanessa Descouraux.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Vous êtes déjà venu?
Oui, je suis déjà venu pour le travail.
Après, je peux pas vous faire visiter, je suis pas d'ici. Ça.
Vous êtes de Tarbes?
Exact, du côté de Lourdes. Et voilà, et là je suis ici, le travail, vu que vers chez moi il n'y a pas de travail. Quoi, il y a du boulot dans l'hôtellerie avec Lourdes, mais malheureusement par rapport au Covid, l'hôtellerie c'était pas du tout ma branche, moi j'étais plus dans le transport. Voilà, je travaillais pour Amazon pendant 4 ans, 4 bonnes années.
Et c'est fini?
Pas 4 bonnes années, 4 années de bons et loyaux services. Voilà, c'est différent. Et c'est fini.
En décembre dernier, à 38 ans, Aïteb quitte la société sous-traitante qui travaille pour Amazon. Il y a gravi pas mal d'échelons, lui le gros bosseur, passé de simple livreur à dispatcher. Ce poste, c'est un peu le couteau suisse dans le secteur. Il faut faire les emplois du temps des chauffeurs, gérer tous les accros et même faire un peu de mécanique. Aïteb ne compte pas ses heures. À la fin, de 4h30 du matin jusqu'à 21h. Le corps lâche, surmenage.
C'est la radio. C'est comme à la maison. C'est hyper confort.
On avait un objectif. Nous, on avait une pression énorme. C'était qualité 100%, quantité 100%, zéro retour. Faut sacrifier sa vie. Parce que le client est roi, comme dans n'importe quelle branche de métier. Mais là, c'est vraiment l'extrême. Quand le client n'est pas chez soi, nous devons aller jusqu'à son lieu de travail, si nous arrivons à joindre le client. Ou peu importe où le client se trouve, en fait, il faut lui ramener.
C'est quoi une tournée type? Combien de colis pour combien de points d'arrêt en combien de temps?
Je vais vous parler en tant que chauffeur aguerri. Comme moi, vous me donnez 200 colis.
200 points d'arrêt dans la journée, 200 colis.
200 points d'arrêt, un client peut avoir 4-5 colis. Avec moi, tout était livré en temps et en heure. Ils veulent que des soldats.
Il y a deux cas de figure. Soit la tournée est finie à l'heure de fin de journée du livreur, soit elle n'est pas finie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il reste encore des colis ?
Qu'est-ce qui se passe ? Il y a le chauffeur procédurier qui me dit directement, moi mes heures sup sont pas payées, je m'en bats les couilles, je te pose le véhicule. Que je lui dise, pose, merci, au revoir, fin de période d'essai. C'est moi qui vais devoir finir sa tournée. Sur le coup des nerfs, je mets fin à sa période d'essai à lui. Donc s'il avait le chômage, il a plus de chômage. Voilà, quoi.
Vous êtes le pion qui fait le sale boulot, voilà. Et qui en plus, une fois votre journée de travail finie de dispatcher, là vous prenez le camion et vous livrez à votre tour, deuxième journée.
C'est ça, deuxième journée et interminable. Et je me suis carrément vu un soir, la Saint-Valentin. Je partais avec ma femme au casino. Il y avait encore un chauffeur sur la route. Je suis passé la récupérer avec le camion du boulot. On allait au casino. Et sur la route, à 10 minutes, les gendarmes m'ont appelé. Il venait de se faire retirer le permis. Permis retiré, il lui restait 10-15 colis. Et, avec maman côté passager, on a fait les 10-15 colis le jour de la Saint-Valentin.
Vous avez perdu beaucoup ?
Beaucoup de temps, beaucoup d'argent, femme et enfant. Alors pour leur faire plaisir, je passais, je les récupérais, je les mettais côté passager et je prenais des secteurs de campagne, pas mal de chevaux, des animaux, je livrais pas mal de fermes quoi. Et je les mettais côté passager, quand on allait livrer les colis, celles qui descendaient, qui amenaient le colis aux mamies, ils avaient des bonbons, des petites pièces, ça leur faisait plaisir. Elle passait du temps avec moi.
Donc pour passer du temps avec vos enfants, c'était sur votre temps de travail.
C'est ça, exact. Côté passager. C'est pire que de l'exploitation. C'est pire que de l'exploitation.
Vous pensez que le client se rend compte de ce qu'il y a derrière la livraison du colis ? Une livraison en temps record ?
Avec Amazon, en 4 ans, c'est simple. Je crois qu'il y a 2-3 clients qui m'ont vu débarquer chez un dimanche, qui m'ont dit « Ah, vous travaillez le dimanche ?» Pour le fameux monsieur du 1er mai, je lui ai ramené un colis, il m'a dit « Ne bougez pas ». Il a eu mal au cœur et je l'ai vu direct. Il est rentré et il est ressorti avec un billet de 20 euros à la main. Et il m'a dit « Mais vous travaillez le 1er mai ?» Et il m'a tendu les 20 euros. C'était ma rémunération supplémentaire de ce jour férié travaillé.
On va faire une petite pause parce que c'est l'heure de votre rendez-vous. Je vous dis merde pour le rendez-vous.
Ça marche.
Et on se retrouve après.
Ça marche.
Le rendez-vous d'Aïteb, c'est pour du travail, toujours dans le transport, sauf qu'il n'a plus son permis pour quelques mois encore.
Alors.
Oui, madame, c'est Vanessa Descoureaux de France Inter. C'est parfait, merci.
C'est par ici.
Et bonjour madame.
Bonjour madame, oui.
Enchantée.
On va s'installer dans le séjour si vous voulez bien.
Avant de retourner voir Aïteb du côté de Valence, on va s'arrêter quelques instants à Paris pour y rencontrer Lydia Mykolenko. Elle est économiste, géographe et travaille sur ces questions de logistique pour l'Institut Paris Région. On va aborder un certain nombre de points avec elle, évidemment, à commencer par celui de la gratuité des livraisons, en tout cas supposée gratuité, puisque c'est désormais affiché comme un argument commercial.
La gratuité n'existe pas et il y a trois types de coûts. Donc il y a d'abord un coût économique. Forcément, quelqu'un paye le coût du transport. Si vous ne le voyez pas apparaître dans votre facture, c'est qu'il est intégré au prix du produit que vous allez acheter. Il y a un coût social très important, c'est-à-dire que vous allez payer de moins en moins cher l'opérateur qui va vous assurer les livraisons. Et puis, il y a un coût environnemental qui est tout à fait considérable. Et là, c'est la collectivité qui le prend en charge du fait des congestions, du fait de la pollution, les heures perdues dans les embouteillages, toute cette pollution qui provoque évidemment des maladies. Et donc, il y a un coût social et environnemental qui est pris en charge, non par le client, mais par la collectivité. Activité publique.
Nous voilà bien schizophrènes quand même, parce qu'on veut pas de camion, on veut pas de bruit, on veut pas de désagréments, mais on veut tout de suite maintenant la commande qu'on vient de passer sur Internet, si possible avant 22h ce soir.
C'est ça l'équation aujourd'hui, non ? L'équation est très complexe et je crois qu'on peut véritablement parler de la schizophrénie parce que personne ne fait le lien de moi, consommateur, je veux effectivement mon produit tout de suite là où je veux. Mais lorsque moi, je prends ma voiture pour aller me rendre à mon travail ou ailleurs, je ne supporte pas de patienter 2 minutes derrière un véhicule qui fait sa livraison le plus rapidement possible parce qu'il a 60 points à livrer dans la demi-journée. Donc là, on est véritablement dans des intérêts contradictoires. L'élu, lui, eh bien, il ne veut pas voir la logistique du tout, il veut pas voir de camion, il veut pas que ça sente, il veut pas de bruit, il veut pas tout ça. L'industriel qui va vendre ses produits veut payer le service du transport qu'il a externalisé le moins cher possible. Et donc, l'opérateur de transport, le logisticien, ne veut pas payer le surcoût que nécessiterait une logistique plus vertueuse. Parce que personne ne veut payer le stock, en réalité. On a tous fait cette expérience de commander sur Internet 3 produits sur la même plateforme. Eh bien, ces 3 produits commandés au même moment vont arriver à 3 jours différents, ou en tout cas avec 3 livraisons différentes. En réalité, ce groupage-là nécessiterait des entrepôts plus importants parce que, en fait, le logisticien, lui, il veut minimiser la surface de son entrepôt. Donc, dès qu'il y a une commande, il veut que le produit parte. Or, c'est là où ça serait vertueux, hein, de livrer en une seule fois et donc avec des camions plus importants. Mais là encore, vous comprenez tout de suite que remplir un camion avec 3 tonnes de produits ou remplir un camion avec 12 tonnes de produits, c'est pas le même temps de remplissage. Et comme le critère de la rapidité est devenu aujourd'hui un critère discriminant, hein, c'est vraiment un argument commercial majeur. Et donc, dès qu'une commande est prête, eh bien, on la fait partir, même si la camionnette est à moitié pleine. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, c'est que les camions qui livrent en ville sont de moins en moins pleins et qu'il y a de plus en plus de camions vides dans les villes.
Nous sommes de retour à Valence. Après son entretien, Aïteb revient nous voir avec un grand sourire.
Comment ça s'est passé cet entretien ?
Mais franchement, je commence mardi. Mardi, une tournée avec 50 arrêts.
C'est la bonne nouvelle de la journée quand même, ça. Hein ?
Ça fait plaisir.
Alors là, vous avez sorti votre portable.
Ben, tout ça, attendez, alors on va augmenter la luminosité. Je vais vous montrer les compliments. Les compliments informatiques. Bravo à tous. En effet, est la première station française la semaine dernière avec un résultat impressionnant de 99,69.
Et donc la fin, merci pour votre engagement. Soyez fiers de vous.
Ouais.
Et la photo qui accompagne ce message de félicitations, c'est des lauriers, donc avec un laurier d'or, un autre d'argent et un autre de bronze. C'est les Jeux Olympiques de la livraison à domicile, c'est ça.
Quand je vois les statistiques, je suis fier de moi. Mais quand je revois d'autres trucs, des véhicules touchés ou un message de la direction pour nous rabaisser, là franchement, ça me dégoûte. Et après, je vous cache pas, dès que je vois une publicité à la télé ou quoi, Amazon ou quoi, c'est... Ah. Franchement, je repense à tout ce que j'ai fait et que ma femme me disait « t'en fais trop, arrête, ils te prennent pour un con ». J'ai dit « mais non, t'inquiète, non, ils m'ont dit ça ». Et le truc, c'est que le premier jour... où j'étais sur une plateforme, je suis arrivé, j'étais en pause, et il y avait un manager de chez eux, qui était devant, et lui, pareil, burn-out. J'ai la vidéo, en cachette, je l'ai filmé.
Ma vie, vous l'avez niqué, déjà. L'autre fils de pute, il m'a laissé son chapeau, vous avez rien dit. L'autre salope, elle parle, elle me racontait, elle m'a vendu des trucs, vous avez rien dit. Mais bon, choqué, mais votre politique de trucs de merde, vous mettez la tête dans le cul, et qu'il y a un problème, arrête, je cherche la mort. Je vais revenir quand même à l'heure.
Quand je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai envoyé direct à mon patron. Il rigolait, il me dirait, il pète les plombs. Et même moi, je rigolais. Croyez-moi, je me foutais de sa gueule intérieurement. Je dis, oh putain, pour en arriver là et tout, je vois, c'est un fragile et tout. Mais franchement, il n'est pas fragile du tout. Ça, c'est un mec, je sais qu'il était comme moi. Quand je vous dis, il a pété les plombs, c'est simple. Il y avait une sécurité, je n'ai jamais vu. C'est des bonhommes, on aurait dit le GIGN qui sont venus juste pour ce bonhomme.
Monsieur, oh, me dis quoi ? Garde ton calme. Eh ben moi je suis pas passé à autre chose, ça fait 3 mois que j'essaie de garder mon calme. Regarde aujourd'hui comment je suis. Est-ce que j'ai l'air calme ? Chez moi je pète ma vie, je m'embrouille avec ma femme, je fais des histoires pour rien, j'ai serré.
De voir plus tard comment ça
médecin me renvoie vers vous. Tout le monde me renvoie vers vous. Et vous me renvoyez vers mon médecin? Vous êtes fou, quoi?
Et ça aurait pu être vous, en fait, vous dites?
Ben, je suis dans la même que lui. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Copier-coller. Je me foutais de ça au début, et ben voilà. Hein. Résultat. Et ouais.
Ce qui est marquant, c'est que les opérateurs importants du secteur travaillent tous avec des sous-traitants. Pour Amazon, c'est simple, c'est l'intégralité des livraisons. Quant à La Poste, elle travaille avec des prestataires dans 85% des livraisons en Ile-de-France, parce que sur le reste du territoire, c'est plutôt entre 10 et 20%. Le but, c'est que cette livraison dite du dernier kilomètre, c'est-à-dire entre le dernier entrepôt et le domicile du client, le but, c'est que cette livraison coûte le moins cher possible.
C'est la fois que je m'as dit qu'il est...
Interception sur France Inter.
Abdelkader Elbaz, opérateur livraison à l'agence Colissimo de Paris Ouest, membre du CHSCT DOT Île-de-France, Colis, et élu au comité technique de la branche service colis courrier de La Poste.
Où sommes-nous ?
On est à Pantin, à l'espace logistique de la ville de Pantin, où il y a plusieurs dépôts La Poste, Colissimo. Il y a cette agence colis qui est là, et il y a une plateforme multi-activité qui se trouve un peu plus loin, qui s'occupe du tri.
Pourquoi avoir choisi celle-ci particulièrement ?
100% de sous-traitance depuis de nombreuses années. C'est un peu le laboratoire de ce que j'appelle moi le dumping social. C'est-à-dire qu'on prend des petites boîtes ou parfois qui sont un peu plus grosses. On les envoie au charbon quelque part puisque tout ce qu'ils peuvent faire, c'est livrer les colis. Ils seront payés pour le colis que s'il est livré. Tout ce qui est le cœur du métier de postier en livraison, c'est-à-dire tout ce qui est livraison, tout ce qui est tri, et à 100% sous-traité sur cette agence-là.
Pourquoi un tel recours, un recours massif à la sous-traitance ?
Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je pense que c'est stratégique par rapport au prix. Il faut savoir que les prestataires, s'il y a du colis, ils seront payés. S'il n'y a pas de colis, à eux de se débrouiller pour faire vivre leurs salariés ou autres. Mais actuellement, ils profitent du boom du colis et ils utilisent à outrance les prestataires de livraison. Ils compensent par des horaires qui sont quasiment intenables. Les agents commencent parfois ici à 5h, rentrent à 17h, voire après 17h.
Et sur les contrats, ça tire à la baisse le coût de la livraison d'un colis ?
La Poste targue de ne pas suivre le prix le plus bas. Mais on a des documents qui démontrent qu'à 1,55€, le colis livré, la société prestataire a été recalée parce que le prix était trop élevé. On est dans leur taxe, c'est vraiment que pour les colis livrés. Toute la tâche qui est de représenter le lendemain le colis comme on doit le faire, ils ne sont pas payés pour la deuxième présentation. Ou s'ils sont avisés, l'agent remplit le papier pour dire à la personne « je ne vous ai pas trouvé à domicile et je dois le renvoyer ». Le travail qui est fait en rentrant, de le sécuriser, de le redonner en cabine, il n'est pas facturé. Ils sont vraiment payés qu'au colis. Je ne jette pas la pierre sur les prestataires, les patrons prestataires. Il y en a qui essayent de faire vraiment leur travail. Mais quand on voit les appels d'offres qui sont sur un lot de 200 colis et 1,55€, on dit que c'est trop cher. J'ai beau faire le calcul que je veux avec 4 salariés, c'est pas rentable. En tout cas, quand on se projette, c'est pas rentable.
Quel serait le coût correct d'un colis ?
Si je me base sur un postier, en sachant que nous, postiers, quand on a des congés, on a des repos de cycle, les prestataires travaillent quasiment du lundi au samedi. Tant qu'il y a du travail, ils travailleront du lundi au samedi, ils n'auront pas de repos... Nous, on est à plus de 2,20€ du colis. C'est Amazon qui veut imposer ça le dernier kilomètre à 1,50€. Et tout le monde se met sur le modèle de Amazon, en tout cas sur les prix.
Historiquement, c'est La Poste qui livrait les colis aux Français. Et comme la partie courrier ne représente plus que moins de 20% de son activité, l'essor du e-commerce lui offre un axe de développement évidemment stratégique. Avec ses filiales, La Poste achemine actuellement 70% des 800 millions de colis livrés chaque année. Dans moins de 10 ans, on s'attend à un doublement de ce nombre de livraisons. Les livreurs des colis confiés à La Poste ne sont pas tous, loin s'en faut, des postiers. Ils peuvent être auto-entrepreneurs ou même employés par des sociétés de sous-traitance dans des conditions très discutables. C'est le cas de ce livreur dont on va comprendre pourquoi il veut rester anonyme et qui a donné rendez-vous à Vanessa Descoureaux.
Bonjour, ça va bien ?
Oui, ça va bien, merci.
On va aller essayer de trouver un endroit calme. Nous sommes aux côtés de Jérôme, vous avez 48 ans, 6 ans d'expérience comme chauffeur-livreur et actuellement vous êtes salarié d'une société qui travaille comme sous-traitante pour la Poste, mais pas seulement. Vous êtes africain, mais vous n'avez pas voulu nous dire précisément votre nationalité pour des raisons de confidentialité. De la même manière, Jérôme est un prénom d'emprunt et les auditeurs vont l'entendre, vous nous avez demandé de modifier votre voix. La première fois qu'on s'est parlé au téléphone, Jérôme, vous m'avez dit « sous-traitant ne veut pas dire sous-homme ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
Les colis que nous, en livre, les colis sont mieux que nous. Ils sont mieux traités que nous. Par exemple, si tu as 100 colis, gare à toi s'il y a un colis qui disparaît. Là, vous allez savoir que le colis est plus assuré que toi, ta personne humaine. On ne travaille pas pour souffrir. Je vous donne un exemple. Vous travaillez dans une boîte, par exemple, de DHL. Quelqu'un qui travaille pour DHL, s'il a 35 clients, il faut que toi, tu aies 90 clients. Mais je ne trouve pas ça normal parce que...
Celui vous faites le même métier ?
Voilà. Celui qui travaille à DHL, il ne respire pas plus d'air que vous.
Jérôme, ce que vous dénoncez, vous, c'est une double exploitation. Le statut, justement, de chauffeur-livreur dans ces sociétés sous-traitantes.
Oui.
Et puis, votre condition de citoyen étranger travaillant sur le sol français. Pour vous, c'est une double exploitation ?
C'est une double exploitation. Ils oublient jamais de mettre leur contravention au nom des chauffeurs. Mais pourtant, ils oublient de faire les démarches pour les régulariser. Ils oublient de faire les démarches pour qu'ils aient une sécurité sociale. Je pense pas que l'URSSAF il est en non-connaissance de savoir que les gens ils travaillent de 5h jusqu'à 8h du temps.
Des journées de 5h à 20h, pour vous, c'est courant ?
C'est pratiquement courant. Parce que tu n'as pas le choix. Le contrat, normalement, il y a des trucs réglementés. Mais je ne pense pas qu'il y a un chauffeur livreur qui a un contrat réglementé. Parce que quand ils te mettent le truc sur le bulletin de salaire, ils ne pourront jamais mettre les 12 heures de boulot que vous faisiez. Ils ne pourront jamais mettre que vous n'avez pas suivi de formation sur la sécurité routière.
Vous n'avez jamais eu de formation ?
Non, je n'ai jamais eu de formation. C'est ça la vérité.
Qu'est-ce que vous répondez aux clients qui, parfois, s'agacent parce que vous dites que vous êtes passé, que vous vouliez livrer le colis et que le client n'était pas là, vous avez sonné, il n'y avait personne. Or, le client répond, mais attendez, moi j'étais là, personne n'a sonné. Ça, c'est un grand classique du genre.
Mm-hmm.
C'est quoi la réalité de ce moment-là ?
Quand on te dit de livrer 20 personnes en une heure, mettez-vous aux places des livreurs.
Donc parfois, vous dites que vous êtes passé, que vous avez sonné, qu'il n'y avait personne, et c'est parfois pas la réalité, vous n'êtes pas passé.
Cela peut arriver, mais ce n'est pas de notre faute. Quand vous avez 100 clients, mais non, vous ne pouvez pas livrer à la même heure. On nous oblige à mentir. La majeure partie des clients pensent que ce qu'ils payent, ça va dans la poche du livreur. Il faut que cela soit clair. D'autres disent carrément, j'ai payé 15€, bien j'ai payé 40€ pour être livré comme ça. Imaginez-vous, vous avez un colis de 35 kilos et le client il est à 5e étage. C'est pas l'employeur qui est là, c'est pas le donneur d'ordre qui est là, c'est le livreur. Il peut se casser le dos. Vous vous rendez compte, ce livreur-là, il tombe ou bien il a des problèmes d'eau, il ne peut pas se soigner, madame. C'est pas un métier banal.
Et ici, il y a encore des poids lourds. Hier, il y en a un qui s'est trompé, qui a raté le site et qui est venu jusqu'ici, qui a manœuvré là. Poids lourd, hein. Donc ici, vous êtes sur une zone 30 km/h, interdit aux 3,5 tonnes. Donc vous imaginez, quand les camions, les poids lourds passent dans cette route.
Là, on est dans une zone pavillonnaire, hein.
Oui, faites de tout petits collectifs ou de maisons individuelles. Aujourd'hui, sur le hameau de Branchy, vous avez 350 foyers.
Avant que le colis ne se retrouve dans la camionnette du livreur, il faut bien évidemment le stocker. Et là, on est en train de s'approcher d'un entrepôt, en l'occurrence Amazon. Nous sommes dans le sud d'Annecy, sur la commune de Seynaud. C'est là qu'en octobre dernier, une plateforme a vu le jour. Alors, c'est une petite plateforme, entre guillemets, dans le sens où elle fait moins de 7000 mètres carrés. D'autres peuvent faire plusieurs hectares de superficie. Donc, effectivement, plateforme modeste, mais qui parvient quand même à pourrir littéralement la vie des riverains.
Donc je suis Micheline Vallée, je suis présidente de l'association du quartier Bien Vivre à Branchy.
Et on vit bien à Branchy ?
On vivait bien, on essaye encore de vivre à peu près, mais on a eu des intrus qui sont installés, qui prennent beaucoup de place.
Et là, on a choisi une heure assez particulière parce que c'est l'une des nombreuses rotations dans la journée de petites camionnettes.
Alors les camionnettes, vous avez 8 rotations jour. Par rotation, vous avez 30 camionnettes, 8 fois par jour. À cela s'ajoutent les poids lourds qui, eux, arrivent entre 12h et 6h du matin. Ça va être déchargé à l'intérieur et les camionnettes vont les récupérer pour livrer aux clients.
Or, pour venir ici, même si l'autoroute n'est pas loin, on peut l'entendre même en fond sonore, la sortie autoroutière, elle n'est pas à côté. Il faut traverser des zones pavillonnaires urbanisées. Alors, encore une camionnette. Et une deuxième.
Nous sommes pas loin de l'autoroute, mais il va falloir passer par des zones urbanisées pour sortir du site d'Amazon, aussi bien pour les camionnettes que pour les poids lourds.
Comment se fait-il qu'un entrepôt Amazon soit parvenu à s'installer ici, justement, en traversant des zones pavillonnaires ?
Ah ben c'est simple, vous êtes dans une zone d'activité économique. Il était prévu au plan d'urbanisme la construction de petites infrastructures commerciales. Donc Amazon a fait déposer un permis de construire, mais ne s'est pas identifié, c'était annoncé comme une messagerie.
Le nom Amazon ne figurait pas ?
Le nom Amazon n'a jamais figuré. Vous allez consulter le permis de construire, vous n'avez pas le nom d'Amazon, vous avez le nom d'un promoteur. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'Amazon respecte des règles de vie, des règles de circulation, et notamment par ses prestataires qui aujourd'hui sont toujours dans des infractions routières très déplorables.
Et puis il y a le problème des poids lourds, qui n'est pas négligeable.
Alors les poids lourds,
parce que là on est sur une toute petite route.
Nous sommes sur une toute petite route, mais malheureusement que nous fréquentons, nous habitants, puisqu'elle nous sert pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire nos courses. Donc les poids lourds arrivent. Normalement ils ont interdiction de se garer sur la route, donc ils doivent rester qu'une heure sur le site d'Amazon, ils pénètrent sur le site, mais parfois ils se garent encore en bordure de route ou sur la route.
Le bas-côté en face de nous est complètement défoncé, donc effectivement on sent qu'il y a des véhicules assez lourds qui ont l'habitude d'y stationner. Mais c'est une route étroite, on n'imagine pas des 38 tonnes là-dessus.
Oui, c'est une route étroite qui porte son nom, ça s'appelle chemin de Branchy. Donc quand c'est un chemin, ça veut bien dire que c'est pas une autoroute. Mais elle a récupéré un trafic important, trafic qui se mêle au trafic des habitants puisque nous sommes dans une zone urbanisée.
France Inter, Interception.
Voilà, c'est toujours le balai des camionnettes qui rentre sur le site. Et si on se retourne un tout petit peu, il y a une trentaine de camionnettes rangées, parfaitement garées, qui attendent de rentrer sur les quais de chargement. Donc elles sont toutes à la queue leu-leu, ces camionnettes. Tous les moteurs tournent. Et ils attendent les instructions pour aller sur le quai de chargement et ainsi prendre les colis qui seront dans quelques heures dans les foyers des clients qui ont commandé. Voilà, là c'est le chargement qui peut commencer, les camionnettes avancent. Alors toutes les camionnettes sont rentrées sur le site et désormais elles procèdent, on a eu droit à un doigt d'honneur là, et désormais elles procèdent au chargement. Les camionnettes avancent une à une en direction des quais de chargement. Un poids lourd suivi de deux camionnettes, poids lourd qui vient de Pologne. Micheline Vallée, on vient d'assister à très précisément 2 minutes et 52 secondes de flot ininterrompu de camionnettes chargées. Vous avez perdu votre tranquillité en échange de combien d'emplois créés sur ce site ?
Alors les emplois directs sur ce site, il y a 56 emplois. Ce sont des employés de maintenance et de logistique, manutention. Après, les prestataires, on va nous dire que c'est de l'emploi peut-être, mais c'est de l'emploi précaire. Ce sont des gens en prestation ou de la prestation de prestation, ce qui est encore pire. Des gens qui sont en prestation à la journée. Donc là, on nous annonçait 200 emplois. En fait, il n'y en a que 50 sites fixes. L'entreprise de sécurité, c'est aussi de la prestation externe. Donc 56 emplois fixes Amazon pour une région qui n'est pas touchée par le chômage comme la Haute-Savoie, c'est Epsilon. Pour une tranquillité bien abîmée dans un lieu de vie qui n'était pas du tout apte à recevoir Amazon. Mais Amazon le reconnaît, hein. Eux-mêmes disent que ce n'est pas adapté pour eux.
Ils vous l'ont dit ça, oui. En réunion ?
Amazon, directeur du site, nous l'a dit que ce site n'était pas adapté pour leur activité. Mais on réfléchit à deux fois avant de s'installer. On ne demande pas la fermeture de site et la perte des emplois. Là, ce n'est pas notre propos. Amazon a une activité. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui se fassent discrets et adaptés à une zone urbanisée. Nous, ce qu'on traite surtout, c'est les problèmes de sécurité, de circulation, pour qu'il y ait une vie du hameau qui soit plus paisible.
Nouveau flux de camionnettes, 6 d'un coup, là, qui arrive à la queue leu-leu.
C'est la prochaine tournée.
La précédente est partie il y a 10 minutes. Hein.
Oui, parce que le matin, c'est plus fréquent.
Quand on évoque le e-commerce, on pense spontanément à Amazon, géant mondial et référence du secteur. Mais malgré ses impressionnantes implantations, l'entreprise n'a pas réalisé une année 2020 si exceptionnelle en France. Sa croissance n'a été que de 7%, moins que celle des autres e-commerçants, d'où une part de marché en baisse à 19% contre 22% en 2019. La concurrence a été féroce, mais surtout, de nombreux consommateurs commencent à remettre en cause ses modes de fonctionnement. Vanessa Descoureaux va rencontrer une spécialiste de ce secteur économique.
Un café, j'étais en train de m'en faire un.
Volontiers, ouais.
Bah, allez-y, mettez-vous.
Super.
Alma Dufour, chargée de campagne aux Amis de la Terre.
On a beaucoup parlé dans ce reportage du dernier kilomètre et de ce que ça implique dans la livraison. Mais comment ils arrivent jusqu'ici, tous ces produits ? Parce qu'il y a une partie fret non négligeable quand même.
Oui, tout à fait. En fait, souvent, on a l'impression que c'est les mêmes prix passagers que le prix pour transporter un produit, et pas du tout. En fait, ça coûte à peu près 10 euros pour envoyer 30 smartphones à l'autre bout de la planète en une nuit en express, parce que le transport par avion des produits est en fait subventionné par les États. Par exemple, à Roissy, alors que l'extension de l'aéroport pour les passagers civils est en train d'être mise en question par le gouvernement...
Le Terminal 4.
Le Terminal 4, exactement. Il y a des gros projets, d'énormes hangars qui sont en cours, des acteurs comme FedEx et DHL qui construisent des nouvelles plateformes parce que le e-commerce explose et que leurs commandes et leurs livraisons par avion augmentent. Donc c'est assez hypocrite. Et effectivement, derrière l'aéroport de Roissy, il y a toute une ville de hangars destinés à accueillir les produits par avion qui voyagent la nuit en plus, donc ce qui crée des nuisances supplémentaires pour les riverains. Et quand on va là-bas, c'est effectivement un avion toutes les 20 minutes, toute la nuit. Et d'ailleurs, dans le projet de loi climat, la question du transport par avion des marchandises est complètement évacuée. Il n'y a rien sur ce sujet-là. La taxation aujourd'hui du transport par avion des marchandises est extrêmement faible. On est sur 1,37€ pour une tonne de frais de transporter, alors que pour le passager, on est sur plus de 4€ par passager. Donc vous voyez quand même la différence. Et il n'y a aucune tentative de rééquilibrer ces choses-là. Donc si le gouvernement, entre guillemets, était cohérent, il encadrerait au moins le fret par avion, le transport par avion des produits.
Ce que beaucoup de gens qui défendent le e-commerce et son expansion à tout craint, c'est de dire, et de vous rétorquer à vous notamment, oui mais ça crée de l'emploi. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors que c'est l'inverse. Aujourd'hui, l'expansion du e-commerce est une machine à détruire de l'emploi en France. C'est démontré quand on regarde les analyses, les données statistiques de l'INSEE, qu'en fait l'expansion du e-commerce a détruit 80 000 emplois en 10 ans en France, et ça c'était même avant le Covid. Les effectifs, en réalité, dans le secteur de la logistique, qui est celui du e-commerce, c'est-à-dire les entrepôts, la livraison, etc., sont en baisse parce que beaucoup d'automatisation, beaucoup d'auto-entrepreneurs qui sont exploités. Donc, en fait, ça ne crée pas de l'emploi, ça en détruit. Et donc, c'est très inquiétant pour la suite parce que le commerce physique, le commerce de détail, les magasins sont une source d'emploi très importante. C'est jusqu'à 3 millions d'emplois en France.
puisque ça représente le commerce traditionnel, on va dire physique, 3 millions d'emplois. Pourquoi et comment expliquez-vous le fait qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre ?
Il y a beaucoup d'idéologie sur la tech, en réalité, enfin les technologies. Comme si qui dit numérique veut dire progrès. Nous, on n'est absolument pas contre le numérique, hein, c'est pas du tout la question. On reconnaît que ça fluidifie la vie dans bien des sens et que c'est très bien. En réalité, Amazon, à la différence même d'un Google ou d'un Facebook qu'on n'aime pas particulièrement, mais bon, n'ont rien inventé. En fait, ils font du commerce tout en détruisant plus d'emplois et en exploitant les gens.
Cléa Salamé, votre invité ce matin est le directeur général d'Amazon France.
Bonjour à vous, Frédéric Duval.
Bonjour, Cléa Salamé.
Merci d'être en direct avec nous ce matin.
Merci de m'accueillir.
Alors, les géants du numérique, ce sont aujourd'hui les adversaires des États. C'est Bruno Le Maire qui dit ça. Vous êtes les adversaires des États?
Mais non, pas du tout. On n'est pas les adversaires des États. Bien au contraire, nous sommes là pour développer une activité. Nous sommes une entreprise américaine implantée en France. Mmh. Nous investissons des milliards d'euros en France. On a investi 9,2 milliards d'euros depuis l'année 2010. On crée de l'emploi. Vous savez qu'on estime aujourd'hui qu'en France, 130 000 personnes vivent de l'activité d'Amazon quand on prend l'ensemble des effets secondaires de notre entreprise. Donc
vous créez de l'emploi, c'est vrai, mais vous en détruisez aussi pour un emploi créé par Amazon. Amazon France, le commerce traditionnel en perd 2,2. C'est Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui l'affirme.
L'INSEE dit que depuis les années 2000, date à laquelle Amazon est arrivé en France, eh bien, le commerce de détail a créé 271 000 emplois. Et nous avons participé modestement à cette création.
Il faudrait faire une nouvelle enquête.
On voit bien que ces chiffres sont faux.
Le boom de la livraison à domicile dépasse de loin le cas du seul Amazon. Aujourd'hui, on peut tout ou presque se faire livrer. C'est devenu un geste banal qui répond à une volonté, une exigence même des consommateurs. Nous changeons de dimension et nous allons désormais dans de petits entrepôts avec une jeune société parisienne, Cajou. Elle promet la livraison des courses du quotidien en un quart d'heure seulement. En février dernier, en tout début d'aventure, 5 salariés. Aujourd'hui, pas loin de 200. C'est une expansion étourdissante. La société ouvre à Paris un entrepôt supplémentaire par semaine.
Et là, je ne sais pas trop pourquoi celui-là ne marche pas. Ah oui, non, mais ça marche. Essaye comme tu as fait sur celui-là. Apparemment, tu sais mieux que... Déjà, déloque-le celui-là.
C'est les petits conseils pour sécuriser le vélo quand il est déposé et que la commande est apportée chez le client. Pour préparer la commande ?
Ouais. Des fois c'est plus rapide, des fois c'est plus long, ça dépend souvent de la taille de la commande. Et comme ça, ça permet d'après de livrer en 15 maximum. En fait, après ça va dépendre s'il y a un produit, c'est très très rapide.
Il y a vraiment des gens qui vous sollicitent pour un seul produit ?
Ouais, ça arrive. Ah, et c'est aussi pour ça que l'application a été créée, c'est-à-dire que justement qu'on a oublié un produit qui peut être urgent, on peut l'avoir en 15 minutes. Après aussi des gens qui font des grosses courses, il y a un peu de tout.
Je vais voir ça avec le patron.
Je vous en prie.
Merci, à plus tard.
Merci.
Bonjour, donc je m'appelle Henri Capoul, je suis le fondateur, un des cofondateurs de Cajou. C'est une société de livraison de courses à domicile en 15 minutes avec des livreurs pro salariés à vélo électrique. Vous allez pouvoir trouver au même prix, livré pour 1,95€ en moins de 15 minutes.
Comment peut-on payer une livraison 1,95€ ? Comment vous y parvenez ?
On a un modèle qui est proposé aux clients, donc proposer 1,95€ de livraison, parce qu'on ne veut pas rendre le modèle frictionnel. Et puis, de l'autre côté de la barrière, on a intégré tout le modèle. C'est-à-dire qu'on possède les produits, on les stocke dans des mini-entrepôts, et puis on va les livrer. Il faut savoir que nos livreurs, ils sont salariés. Et le prix qui est payé à la livraison, c'est pas ce qui est payé le livreur. Nous, le gros de notre revenu, il se fait sur la marge des produits qu'on vend. Et c'est grâce à ce revenu-là qui est effectué sur les produits qu'on vend qu'on va payer nos livreurs à l'heure. On n'est plus en 2010. Tant d'un point de vue économique, c'est plus possible d'aller faire des sociétés qui sont pas rentables sur 10-15 ans que d'un point de vue social. C'est pas possible d'aller créer un modèle qui précarise toute une partie de la société. Ça demande beaucoup d'investissement en amont par rapport à des modèles plateformes. Mais finalement, on s'y retrouve beaucoup plus vite dans le temps.
Une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, parce qu'un jour ça arrivera, est-ce que vous ne craignez pas quand même que les gens n'aient qu'une envie, c'est de retourner dans des magasins, des vrais magasins, voir des vrais gens ? Vous ne redoutez pas ça ?
Mais moi, il y a plein de moments où j'ai envie de voir des vrais gens, notamment quand j'achète des légumes bio sur des marchés, et ça, on va pas le remplacer. Évidemment que le contact humain, c'est important. En revanche, il y a énormément d'autres moments dans notre vie, de tous les jours, et tout le monde les a chaque semaine, des moments où on ne peut pas, on est bloqué à la maison, on n'a pas le temps. C'est ces problèmes-là qu'on résout, qui n'étaient pas résolus jusqu'alors, et qu'on résout aujourd'hui.
Sauf que ce dépannage, parce que c'est pas mal de dépannage quand même ici en commande, ça s'appelle, en tout cas dans le monde d'avant, ça s'appelait l'épicerie de quartier. Est-ce que vous n'êtes pas en train de les tuer ?
Je ne sais pas si on est en train de les tuer, en tout cas on est en train d'inventer le modèle de demain. Pour le coup, on n'est pas en concurrence avec les épiciers de quartier. On va faire rentrer aussi des produits de commerçants du quartier qui vont pouvoir se retrouver sur notre application et augmenter leurs revenus grâce à nous.
C'est quoi le moment fort, le pic de votre activité ?
Ça correspond plutôt aux sorties de bureau vers 19h-19h30 quand ils se retrouvent chez eux. Et donc à partir de ces heures-là, on commence à voir décoller des commandes qui correspondent plutôt à soit des dîners, soit des apéros, soit des soirées, un peu plus tard dans la soirée.
Il y aurait des soirées sous couvre-feu, vous voulez dire ?
Ça ne nous regarde pas.
Voilà, donc maintenant on va suivre un des livreurs. Il va assurer sa livraison pas très loin d'ici, parce que c'est le principe justement. Allez, c'est parti. Je vous suis, hein. C'est vous le professionnel de la livraison, c'est pas moi. Au revoir. Alors, on était dans le 3e arrondissement, on va faire une commande dans le 1er. L'objectif, c'était 15 minutes. Est-ce qu'on les a tenues, déjà, les 15 minutes pour la livraison ?
Oui, on les a tenues.
Pourquoi vous faites recours à des sociétés comme ça ?
Parce que là, on est en période de couvre-feu, et du coup, bah, le seul moyen de se procurer à manger facilement, c'est eux, et c'est plutôt rapide, c'est partout dans Paris, donc ça nous arrange.
C'est l'aspect rapidité de livraison qui vous a convaincu ?
Rapidité, et aussi, il y a le choix, c'est-à-dire qu'on peut commander tout et n'importe quoi.
C'est pas un peu feignant, pardon de poser la question, mais...
Bah en fait, là, nous, on a un départ. On va à Rouen à 21h. Donc du coup, on voulait se procurer à manger facilement pour le trajet. Et donc du coup, bah là, le seul moyen qu'on a trouvé, c'était de commander là-dessus, puisque c'est rapide, c'est facile. Et puis nous, on a notre trajet qui est juste à côté, donc ça permet de commander après 18h.
Est-ce que quand la crise sanitaire sera derrière nous, vous allez continuer à avoir recours à des sociétés comme celle-ci ?
Bah, par exemple, si on veut commander à manger et qu'il est tard, je pense que ça peut être facile de commander là-dessus, s'il n'y a aucune boutique d'ouverte. Donc on peut continuer à commander là-dessus après la crise. Surtout que bah, les prix, en fait, ils ne changent pas du tout. Enfin, c'est les mêmes qu'en magasin, du coup, ça ne change rien du tout. Et il y a même des choses qui sont moins chères. Du coup, ça peut être intéressant de commander là-dessus.
Ouais, donc vous, c'est un mode de consommation qui est très habituel chez vous, hein.
Ouais, ça peut être intéressant pour les étudiants.
On arrive près de notre destination. On est dans le quartier des Halles à Paris. C'est le moment de la soirée où la ville appartient aux livreurs, en fait. À vélo, à scooter, beaucoup. Mais on ne voit pas grand monde, à part des livreurs, un peu partout dans ce quartier. On vous retrouve, Lydia Mykolenko, économiste, géographe et chargée d'études auprès de l'Institut Paris-Région, notamment sur les questions de fret, de transport et de logistique. Pour conclure ce sujet, j'ai envie de vous demander à quoi ressemblerait une livraison à domicile vertueuse.
Une livraison à domicile vertueuse serait d'abord une livraison dont le consommateur paierait le juste prix. C'est déjà la première chose. À partir du moment où on accepte le juste prix, on peut être livré dans un délai extrêmement rapproché, ou si on considère que ça n'est pas urgent, on serait livré avec des moyens massifiés, un camion de ville, qui lui-même serait alimenté par le mode fluvial, par exemple, hein, à partir d'une plateforme idéalement située, évidemment avec l'empreinte environnementale la plus réduite possible. Ce produit peut venir de l'hypercentre, en ayant aménagé des mètres carrés logistiques dans toutes les interstices urbains possibles. Ça peut être dans des anciens parkings inutilisés. Je sais qu'il y a des réflexions très intéressantes d'ailleurs en cours à la Défense, hein, sous la dalle, parce qu'il y a en plus des puits de lumière de manière à réutiliser des espaces sous la dalle de la Défense à des fins de logistique urbaine. Vous avez des beaux exemples comme ceci d'équipements qui mutualisent et à partir desquels ensuite un véhicule électrique ou un vélo triporteur à assistance électrique va livrer l'espace proche dans des conditions sociales acceptables et des conditions environnementales optimales.
Parce que si rien n'est fait au regard des projections de développement du e-commerce, si rien n'est fait, à quoi vont ressembler nos villes, nos centres-villes ?
Bien, si rien n'est fait, on va dresser un scénario totalement repoussoir. Hein. On va aller vers une logistique de moins en moins coûteuse, de plus en plus impactante, parce que le nombre de camionnettes va être multiplié par deux, par trois. Ça va devenir véritablement invivable pour tout le monde. Donc nous ne retournerons pas en arrière, c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Le monde d'après ne sera pas le monde d'avant sans le e-commerce. Hein. Certes, on parle des filières courte. Certes, on parle des magasins de proximité, mais personne ne va renoncer aux achats du e-commerce, à toutes ces commodités que cette société de la data nous offre. Tous nos réflexes que nous avons acquis d'une manière accélérée vont perdurer. Donc, il faut résolument se tourner vers davantage de massification, vers des choix de mode de livraison plus conscients et qui vont vers un impact environnemental et social le meilleur possible.
Un colis à tout prix, c'était un reportage de Vanessa Descoureaux, réalisation Hélène Bizio, assistée de Martine Messonnier, mixage Claude Niort. Reportage disponible dès à présent sur franceinter.fr. Prochaine, on s'intéressera avec Géraldine Allot au sort des animaux de cirque, bientôt bannis des pistes.